Yahvé est mon Dieu. Eli Yahou. Voilà le sens de ce mot hébreu qui n'est autre que le prénom du prophète Eli. Je vous invite ce matin à faire un bout de chemin avec ce prophète. Eli, le Tikbite, venant de Tikbé en Galaad. Et la traduction de son prénom nous dit déjà la relation forte qui le relie au Dieu éternel. Eli surgit dans l'histoire biblique dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, deux chapitres avant l'extrait que nous avons entendu. Nous sommes au milieu du 9e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Akab en Israël. Eli apparaît alors à la cour pour donner une mauvaise nouvelle. Il va prédire la sécheresse et la famine. Comme conséquence de la non-écoute du peuple de Dieu pour ce Dieu unique. Un petit rappel. Le roi Akab, pour plaire à sa femme Jézabel, va introduire le culte des idoles jusqu'en Samarie, la capitale. La reine Jézabel persécute alors les prophètes du Dieu unique et vénère 400 dieux de Baal. Survient ensuite l'exécution, dont Élie parle dans notre extrait, des 400 prophètes de Baal, conformément à la loi qui est donnée dans le Deutéronome à propos des faux prophètes. C'est alors que la colère de cette reine Jézabel est terrible, elle va menacer la vie d'Élie. Découragé, celui-ci disparaît dans le désert où il demande la mort. Un ange prend soin de lui et Élie part alors dans le désert 40 jours et 40 nuits, c'est ce qu'il nous est expliqué, jusqu'à l'Horeb, où l'autre nom de cette montagne, c'est le Sinaï. C'est là qu'il rencontre l'Éternel. La vie de ce prophète, de ses contemporains, de toutes ces histoires que nous entendons, dénonciation, meurtre, trahison, jalousie, colère, ressemblerait plutôt à une mauvaise série télévisée qu'à une histoire d'amour, de confiance entre Dieu et son peuple. Et pourtant, si l'on prend la peine d'y regarder un peu plus près, les questions posées par Élie et par ses contemporains dans cette histoire nous ressemblent. Comment parler de Dieu aujourd'hui en tenant compte des violences du monde? Première question que Élie se pose. Ensuite, prendre acte d'une violence qui se déchaîne souvent au nom de la religion, au nom d'un Dieu ou au nom de Dieu. Deuxième préoccupation que nous connaissons. Ou encore, comment faire taire celui ou celle qui ne croit pas comme moi? L'histoire d'Élie nous donne beaucoup d'échos de nos propres questionnements. Je vous invite à remonter un peu le cours de l'histoire de ce prophète et de revenir à ses premiers faits et gestes au début du chapitre 17. L'histoire commence par les provocations que Élie va lancer au roi Akab. Mais si l'on regarde bien notre texte, c'est le prophète lui-même qui va en prendre l'initiative. Élie décide de mener l'histoire sans égard à la volonté de Dieu. Puisque nulle part dans le texte biblique, on nous dit qu'Élie agit selon la volonté de Dieu. Danger. Pourtant, dans sa provocation, Élie se donne le droit de parler au nom de Dieu. Et il le fait dans un cadre politique, puisqu'il parle au roi d'Israël. Et il profère une malédiction. La sécheresse. Il s'institue comme prophète du malheur. Dans ce contexte, la parole d'Élie semble avoir un grand pouvoir. Et Élie va même jusqu'à dire que la sécheresse prendra fin à son commandement. Je vous relis le premier verset du chapitre 17. Élie dit au roi Achab, « Par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël, je l'affirme, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée et pas de pluie, sauf si je le commande. » Ne pouvons-nous pas alors dire ici que le Dieu que sert Élie est instrumentalisé par son prophète ? Dans la suite de notre récit, au chapitre 17, nous arrivons à l'histoire de Sarepta, cette histoire qui va renverser la situation. La parole ici revient à Dieu, qui reprend les choses en main. Il invite Élie à partir. Il doit alors marcher, il doit faire l'expérience de la solitude et rencontrer ce moins que rien. C'est une femme, elle est pauvre, elle est étrangère et elle est veuve. Dans la culture d'Israël, autant dire que cette personne n'existait pas. Après s'être fait l'interlocuteur du roi tout-puissant, Élie est envoyé par son Dieu vers la faiblesse, vers le rien, vers la pauvreté. Et Élie n'est pas loin de rencontrer une situation de mort, celle de cette veuve et de son enfant. Pour la première fois, ici, dans ce récit, Élie va parler en invoquant le nom de Dieu et non en son propre nom. Et ici, il ne prononce pas une malédiction. Il va donner une parole de vie, au verset 14. « Jarre de farine ne s'épuisera, cruche d'huile ne se videra. » Et cette parole de vie se réalise. Cette parole qui témoigne d'un Dieu qui ne mesure pas son appui, qui ne compte pas l'amour qu'il donne. Puisque ici, le miracle est pour une étrangère, une femme, une pauvre, une veuve, qui n'a aucun mérite, sinon celui de choisir la confiance. Le troisième épisode marquant est celui où le fils de la veuve est relevé de la mort. Le fils tombe malade, il est proche de mourir. La veuve accuse d'abord Élie. C'est alors qu'Élie va essayer de négocier avec son Dieu pour qu'il rende la vie à cet enfant. Il va alors rendre l'Éternel responsable de la mort de l'enfant. La mort comme règlement de compte. Pour Élie, l'Éternel serait celui qui va punir la veuve par la mort de son enfant. Mais là encore, Élie se trompe. À la fin du récit, c'est bien un tout autre Dieu qui nous apparaît. Dieu comme puissance de vie, qui va redonner vie à cet enfant. À Sarepta, partout où il y avait la mort, le vide, le rien, Dieu est présent, Dieu s'est présenté et il y a insufflé la vie. Nous arrivons alors au récit de ce jour. La présence de l'Éternel au mont Horeb, où finalement, voir Dieu, c'est ne rien voir. C'est ça que nous dit le récit. Mais c'est sentir une infime caresse, ou bien encore entendre un léger silence, bien loin des manifestations de bruit, de violence et d'éclat. Alors, peut-on penser que le découragement qui saisit Élie puisse être le revers de son triomphe en utilisant le nom de l'Éternel? Les actes violents qu'il a commis pour tuer au nom de sa fausse image de Dieu, suivi de sa rencontre parmi les plus pauvres, ne sont-ils pas pour lui un immense écart qu'il lui faut maintenant digérer dans le vide? Et Dieu ne va pas le laisser, seul devant ses questionnements, seul devant son désespoir. Il va l'accompagner encore pour l'enseigner de nouveau. Au désert, Élie fait le constat de son propre échec. Il a mis Dieu à l'épreuve sans lui obéir, sans se mettre à l'écoute de sa voix. Il a voulu posséder ce Dieu qu'il croyait connaître et rendre la justice à sa place, mais il ne l'a pas écouté. La théologie d'Élie, pourrait-on dire, en un Dieu puissant, violent et vengeur, vole en éclats. L'Éternel révèle à Élie un Dieu différent, rencontré dans la faiblesse et non dans la puissance, rencontré dans l'abandon d'un chemin et non dans la saisie d'une image, rencontré dans un laisser-voir divin et non dans un faire-voir humain, rencontré dans une approche discrète qui nécessite du silence et de l'écoute, rencontré enfin dans une parole qui fait vivre et non dans un spectacle bruyant. Notre récit déconstruit l'idée que l'Éternel serait présent dans des phénomènes cosmiques extraordinaires. Et il affirme que l'Éternel se tient dans une voie de fin silence. Quand Élie parle fort, à la limite du cri, Dieu lui se révèle dans un murmure. Et Élie, au cœur de sa retraite des 40 jours et des 40 nuits, découvre que c'est le Dieu du silence qui est le Dieu de la vie. Vous l'entendez, beaucoup de choses, beaucoup d'échos dans cette histoire d'Élie qui nous rejoignent. Quelques-uns encore. Certainement, comme Élie, nos oreilles sont aussi attirées par les bruits et les vacarmes du monde. Mais souvent, ces bruits nous cachent des paroles douces, tendres et murmurées. Certainement, nos yeux sont attirés par la violence du monde sur nos écrans. Mais elle masque la violence, plus discrète, faite à ceux qui se trouvent en bas de chez nous. Certainement, nos cœurs tremblent devant les violences commises au nom de prétendus dieux que nous pensons à l'opposé du nôtre. Certainement encore, nos pensées parfois vont jusqu'à associer tous les croyants d'une même religion parce que certains tuent et massacrent. Mais cela masque à notre intelligence que dans notre propre religion, il y a eu, il y a, et il y aura aussi des violences commises au nom de Dieu. L'histoire d'Élie nous dit encore et encore combien il est facile de prêter au divin des idées qui sont les nôtres, de commettre des actes en son nom, ou même de se tromper de Dieu, ou encore d'en inventer un qui n'est que l'image de nous-mêmes. Et c'est ici que le texte de l'Évangile que nous avons entendu fait irruption. Gethsémané, Jésus qui ne veut pas mourir, qui avec ses amis qui semblent ne pas l'entendre. Jésus va lutter seul contre le mal pendant que ses amis s'endorment. Jésus essaye, il les appelle. Restez éveillés. Priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. C'est aussi ce message dans l'Évangile qui est présent. Veillons, soyons vigilants pour toujours trouver la vie, la recevoir et fuir les forces mauvaises. Ces deux récits nous invitent à la vigilance. À la grande vigilance. Le Dieu de Jésus-Christ se tient dans le silence, la douceur, la bienveillance, la présence discrète. Jamais notre Dieu ne force quiconque. Jamais il ne fait violence. Jamais il ne demande de tuer. Et en même temps, ce qu'il a à nous donner est d'une puissance extraordinaire. Chers amis, qu'il nous soit donné de veiller, que nous puissions être des veilleurs dans le vacarme du monde et dans le bavardage de nos vies, que nous puissions découvrir le Dieu de Jésus-Christ qui se tient dans une voie de doux silence. Amen.